Les animateurs de cette balado-diffusion n'ont aucun conflit d'intérêt à déclarer en lien avec l'épisode qui suit. Bonne écoute!
Bienvenue au Pharmascope.
Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du Pharmascope. Je m'appelle Nicolas Dugré, je suis pharmacien au CIUS du Nord de l'île de Montréal.
Bonjour tout le monde, je m'appelle Olivier Massé, je suis pharmacien dans le même CIUS.
Salut, je m'appelle Amélie Gravel, je suis médecin de famille au GMF Sacré-Cœur dans le même CIUS.
Comment ça va?
Ah, ça va super bien, vous autres?
Moi, ça va, je reviens de vacances.
Bien joué. Alors, épisode aujourd'hui sur le damné cholestérol. Je dis damné parce qu'évidemment, bon, de un, on a fait plusieurs des épisodes déjà là-dessus dans le passé. De deux, ben, pour ceux qui nous suivent un peu, là, fait partie des gens qui ont écrit les lignes directrices de PEER en 2023, où on essaye de simplifier là, la vie de tout le monde par rapport à la gestion du cholestérol, puis pour lesquels il y a une certaine quantité de... Ben, de haine.
Ah, moi, j'aurais dit résistance là, pour être dans un terrain neutre. Là,
tout ça. Fait que, puis je sais pas pourquoi. Là, je vais être honnête avec vous. On a déjà traité tout ça. On va pas le refaire pour écouter les épisodes passés si ça vous intéresse. Pour moi, les deux lignes directrices, c'est-à-dire les lignes directrices de PEER et les lignes directrices de la Société canadienne de cardio de 2021, sont dans les faits plutôt compatibles l'une et l'autre, à part pour quelques petits points, principalement, je trouve, au niveau là, des marqueurs utilisés dans l'évaluation du risque cardiovasculaire. Mais au-delà de ces détails-là, pour l'évaluation de base, pour la prise en charge, le traitement, puis tout ça, je trouve qu'ils disent la même affaire. Je veux dire, on a utilisé les mêmes études. Ils disent d'ailleurs qu'il n'y a pas de littérature qui suggère l'utilisation de cibles ou de littérature pour déterminer des cibles. Ils utilisent donc le terme eux-mêmes « seuil de traitement ». Ils mettent par-ci, par-là dans des algorithmes l'idée de processus de décision partagé quand vient le temps de considérer des traitements ou l'ajout de traitement à des statines. C'est juste que, après ça, il y a des flèches avec des oui puis des non. Il y a des gens qui utilisent ces guides de pratique-là, qui présentent sur ces guides de pratique-là, puis on dirait que puis on revient avec, finalement, il y a des cibles, puis il faut cibler, il faut rajouter tant qu'on n'a pas atteint les dites cibles. Puis là, ben ouais. Ça, contre répondre à l'entrée, je trouve ça un peu lourd, mais bon. Malgré tout, il y a encore des nouveautés dans le monde du cholestérol. On a décidé de faire un épisode, en fait, principalement à la suite de la publication d'une nouvelle étude dans le New England qui porte, on va dire, sur les cibles de LDL, on va y revenir tout à l'heure. On s'est dit que tant qu'à faire un épisode sur le cholestérol, on allait en profiter aussi pour aborder brièvement les nouvelles lignes directrices américaines de dyslipidémie qui ont été publiées il n'y a pas longtemps, au début de l'année 2026, et qui soulèvent, ma foi, des questions, n'est-ce pas, Monsieur Massé?
De nombreuses questions.
Tu veux-tu nous en parler un peu?
Je pense que
tu as apprécié ta lecture, j'ai bien compris.
Mais... moi, je m'étais pas rendu compte que tu m'avais envoyé dans la gueule du loup. Hein, quand Nico m'a dit « Ah, Ali, peux-tu juste lire les lignes directrices là, de l'AHA, l'American Heart Association? » Je me suis dit « Ça va être une balade dans le parc. » Et non, hein, c'était compliqué. Puis là, c'est un guide qui est excessivement volumineux. Là, ça fait plus que 100 pages, donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de stock. Là. Il y a certains choix éditoriaux qu'on va faire. On va le couvrir quand même brièvement. Vous allez voir, il y a énormément de complexité dans ce guide-là. On va débuter avec la méthodologie. Donc, les lignes directrices de l'AHA ont été écrites par un comité de rédaction, révisées par un comité d'examen par les pairs. Évidemment, ces deux comités-là étaient surtout composés de cardiologues, mais il faut leur donner, il y avait une visée multidisciplinaire, puis il n'y avait pas seulement des médecins non plus sur les comités. Pour les besoins des lignes directrices, l'AHA a pu procéder à des revues de la littérature pour mettre à jour leurs recommandations de leur dernier guide qui avait été publié en 2018. Par contre, je pense que c'est important de préciser qu'ils ne semblent pas avoir procédé à des revues systématiques en bonne et due forme ici. Je pense que c'est important de le mentionner, là, la moitié des recommandations de classe 1, là, c'est-à-dire les recommandations pour lesquelles les bénéfices sont considérés outrepasser largement les risques, ben la moitié de ces recommandations-là, en fait, sont supportées uniquement par des données observationnelles et des opinions d'experts. Donc, il y a énormément de place qui est donnée quand même au consensus d'experts, aux données observationnelles. Donc, C'est à garder en compte quand on lit ces lignes directrices-là. Sinon, la manière dont les auteurs sont arrivés à formuler leurs recommandations, leurs suggestions, n'a pas été très précisée dans le manuscrit ou les suppléments, là. C'est clairement une limite de leur méthodologie. Donc, la façon dont ils sont arrivés à poser des recommandations était pas 100% claire. Puis la façon, finalement, de gérer les conflits d'intérêts constituait probablement une autre grande limite, là. On publiait, on rendait disponibles les conflits d'intérêts, mais on ne sait pas trop comment les conflits d'intérêts ont été gérés, comment ceux-ci ont entraîné des actions, des limitations particulières. Puis ce qu'on constate, c'est qu'il y a énormément de conflits d'intérêts avec l'industrie pharmaceutique, avec l'industrie de l'imagerie médicale. La moitié du comité de rédaction en avait, le deux tiers du comité d'examen par les pairs en avait aussi.
Bon,
Donc,
je vais dire, on dirait que c'est un peu tristement pas étonnant. Dans le sens que ça devrait pas, là, j'imagine, là, dans un monde idéal. Mais c'est souvent ce qu'on voit, là, soyons clairs. Bon, là, ça, c'est la méthode, ça, on le sait, c'est la partie ennuyante. Là, le nous du juicy, un peu, là, qu'est-ce qu'il recommande d'incroyable?
Oh, ça s'en vient, là. Ça s'en vient très juicy, là.
Donc, premier point, on propose des bilans lipidiques, des dépistages beaucoup plus précoces qu'avant. Selon l'AHA, on devrait procéder à un dépistage universel du bilan lipidique chez tous les enfants âgés de 9 à 11 ans.
T'as-tu dit de 9 à 11 ans?
Oui,
Au moins, il y a une petite faute de frappe, là, quelque chose.
Non, puis ils vont encore plus loin. Là, on pourrait même le considérer dès l'âge de 2 ans selon certaines situations plus à risque. Évidemment, tout ça n'est pas basé sur des études randomisées contrôlées qui démontreraient qu'un dépistage précoce entraîne une réduction du risque cardiovasculaire ou des bénéfices cliniques. C'est basé à 100% sur des études observationnelles. Puis le gros de la justification en fait en faveur d'un bilan précoce, c'est qu'on viendrait attraper des cas d'hypercholestérolémie familiale qui, on rappelle, ont une prévalence d'environ 0,3-0,4% dans la population.
C'est sûr, tu sais, il y a un aspect, je pense, qu'il faut quand même pas négliger dans tout ce qui est américain. C'est sûr que leur système de santé est très, très, très différent du nôtre, notamment pour, je veux dire, la considération des ressources. Tu sais, c'est sûr que dans un système de santé comme le nôtre, je pense qu'on met beaucoup de valeur avec raison sur s'assurer que si on procède à des dépistages, des tests, des ci, des ça, c'est parce qu'il y a une valeur ajoutée qui a été démontrée, idéalement des études randomisées contrôlées, évidemment. On dirait que dans un système de santé où c'est plus un concept d'utilisateur-payeur, puis en plus, bon, tu disais qu'il y a des conflits d'intérêts sur les gens qui rédigent les papiers, on peut imaginer, puis là, je suis loin d'être spécialiste là, du système de santé américain, mais ma compréhension quand même, c'est que probablement que dans un système de santé comme ça, plus tu fais de tests, plus tu fais d'examens, ultimement, mieux c'est pour ta business. En tout cas, tu sais, je veux pas spéculer là, sur des intentions de personnes qui a participé à ça, mais je pense qu'il faut quand même, je sais pas, considérer les différences de leur système de santé, puis qui peut certainement influencer certaines recommandations, là, j'ai l'impression.
Clairement.
Mais tu sais, encore là, moi, ce qui me préoccupe, c'est plus de penser, tu sais, un patient qu'on étiquetterait, en fait, chez qui on poserait un diagnostic, même dans l'enfance, donc. Pour qui ça risque de pas changer grand-chose dans l'immédiat, d'un point de vue assurabilité par la suite, d'avoir ce diagnostic-là comme n'importe quel autre diagnostic, génétique ou ça peut définitivement nuire, là, donc
Clairement, c'est un
garder
bon
en tête
point.
qu'on risque de plus leur nuire que de les aider, là.
Sinon, si on fait pas de bilan lipidique dans l'enfance, là, ils recommandent d'en faire un dès le début de l'âge adulte, donc dès 18 ou 19 ans, puis ensuite on devrait suivre un bilan lipidique au moins tous les 5 ans.
Bon, ben, parle-moi de ça.
Voilà. Sinon, autre catégorie, on suggère de considérer la polypoprotéine B dans certains contextes pour mieux évaluer le risque cardiovasculaire de certains patients. Puis on recommande de mesurer systématiquement la lipoprotéine A chez tous les adultes au moins une fois au cours de leur vie. Je pense que c'est important de rappeler c'est quoi ces marqueurs-là, là. C'est pour ceux qui sont un petit peu moins familiers avec ça, là. C'est des marqueurs sanguins qui ont été associés dans des études observationnelles avec le risque cardiovasculaire des patients. Puis c'est pourquoi l'AHA propose de les utiliser là, pour finalement mieux prédire le risque cardiovasculaire des patients. Par contre, il n'existe pas à ce jour, à ma connaissance, et tu me corrigeras, Nico ou Amé, de calculateur de risque cardiovasculaire qui a une valeur prédictive cliniquement plus importante grâce à l'ajout de ces marqueurs-là dans le calculateur, là. Puis c'est là l'enjeu, là. C'est pas parce qu'une variable X, Y, Z est associée à une issue, comme le risque cardiovasculaire ici, que nécessairement intégrer cette variable-là dans un calculateur prédictif va nécessairement augmenter sa capacité à prédire des événements cardiovasculaires.
Ah, clairement, puis ça peut-être apprendre à prendre un petit seconde là-dessus, c'est un peu aride là comme concept, mais c'est juste l'idée de comment construire un modèle prédictif, fait qu'on prend des patients, on mesure des affaires sur eux, on les suit pendant le plus longtemps possible, on regarde ce qui leur arrive, puis après ça, avec la magie de la science, on essaye de faire ça à reculons, puis d'inventer une formule mathématique qui prédit le futur. Puis l'important, c'est que la formule mathématique, ben elle fonctionne, fait qu'après ça, on va aller la valider dans d'autres cohortes pour voir comment elle performe. Fait que ce qui compte, c'est que ça marche. Ce que tu mets dedans, ultimement, c'est pas important vraiment. L'important, c'est que ça fonctionne. Puis, là où il faut faire attention, quand on parle de marqueurs comme la LPA, par exemple, ben, c'est que là, on nous dit dans différentes publications, on recommande de faire la LPA chez des gens. On nous dit, ben oui, c'est important de la faire parce que une LPA élevée est associée à une augmentation du risque cardiovasculaire. Puis là, on va nous sortir même des augmentations de risque. Fait qu'on va dire, par exemple, une LPA au-dessus de 10 double le risque cardiovasculaire. C'est pas faux. Par rapport à une LPA plus petite. Fait que là où ça marche pas, c'est que tu peux pas utiliser ces chiffres-là puis les appliquer sur un modèle prédictif comme le Framingham. Fait que dans les faits, à ce jour, ben, mettons que tu fais un Framingham au Canada, peu importe la LPA, tu peux pas transposer ton résultat de LPA sur ton résultat de Framingham. Fait que je sais toujours pas comment tu es censé t'en servir. Mettons que tu as un vrai patient dans la vraie vie puis tu sors un Framingham, ben, peu importe, là, mettez le chiffre que vous voulez, là, à 17%. Puis là, tu y fais une LPA pour une raison un peu obscure, puis ça sort une LPA élevée. Puis là, tu as retenu quelque part que ben, une LPA atteint, ça double le risque cardiovasculaire. Tu peux pas dire, ah, ben, vous voyez, avec cette nouvelle prise de sang, votre risque cardiovasculaire passe de 17 à 34. Ça fonctionne pas, là. C'est pas du tout une science qui s'applique. Fait qu'à part dire au patient, ah, ben, probablement que ça aurait été mieux si votre LPA avait été moins élevée. Je ne sais toujours pas, de façon très, très honnête, là, quand je dis ça, qu'est-ce que tu es censé faire avec cette information-là? Parce que tu sais, souvent, on nous dit dans les différents guides de pratique, puis c'est un peu ça aussi, Oli, si j'ai bien compris, ces différents marqueurs-là, ils vont servir apparemment à préciser le risque chez
Exact.
des gens chez qui on serait embêté. Bon, d'un, les seuils d'embêtage, ils sont déterminés par les gens qui écrivent le guideline, alors que ça devrait être déterminé par le patient, je pense, avec qui tu as cette discussion-là. Puis deux, ben, je ne sais pas comment c'est censé régler ton embêtement, là, parce que je ne sais pas. Comment tu fais pour changer ton résultat de prédiction du risque avec ça?
Puis là, ça serait complètement différent si on avait, par exemple, un nouveau calculateur qui intégrait la lipoprotéina, qui démontrait que l'intégrer à ce nouveau calculateur-là, ça le rendrait plus performant. Là, après, ça serait autre chose, mais on n'a pas cette science-là.
Ouais, ben clairement, là, je veux dire, moi, ça me gênera pas pantoute si dans 10 ans, il y a des gens qui fabriquent un nouveau modèle prédictif dans lequel il n'y a plus pantoute les questions qu'on pose dans le Framingham, puis qu'il y a des questions complètement différentes avec notamment de la LPA, puis qu'on nous montre que ce modèle-là prédit mieux le futur que les autres. Je veux dire, ce n'est qu'une bonne nouvelle pour tous, là. Mais il y a comme un petit saut, là, de science dans tout ça en ce moment. Bon, après ça.
Sinon, pour les patients qui prennent un médicament pour le cholestérol, l'AHA recommande un profil lipidique de contrôle 4 à 12 semaines après l'initiation ou l'ajustement des doses. On recommande aussi de faire un bilan lipidique absolument tous les 6 à 12 mois pour les patients qui prennent une pilule pour le cholestérol. Puis évidemment, on propose ces bilans-là parce qu'il y a des cibles de paramètres biochimiques à viser. On va bientôt y revenir.
Puis dans ton 6 à 12 mois, là, c'est-tu même une fois que tu as atteint ta cible ou
Ben
c'est.
oui, mais le LDL, faut que tu l'observes assidûment.
OK.
Mais d'un coup, qu'il s'en aille.
On sait pas. Tu sais, mettons qu'il monte de 0,2 ou 0,3, faut que tu l'attrapes. Sinon, sur la prise en charge du risque cardiovasculaire, maintenant, l'AHA fait plein de recommandations non pharmacologiques qui font tout plein de sens et qui se résument à bien manger, faire de l'activité physique, perdre du poids. Y a pas vraiment de grosses surprises ici. En matière d'évaluation du risque cardiovasculaire, on recommande désormais un nouveau calculateur, le calculateur Prevent ASCVD. permettent de prédire le risque de développer un événement cardiovasculaire, ici défini comme un infarctus du myocarde ou un AVC. Puis on peut estimer ce risque-là à 10 ans et à 30 ans. Puis
Ouais, mais
ici,
ça quand même,
ouais.
est quelque chose d'intéressant là-dedans. C'est sûr qu'en termes de traitement, après, on n'a évidemment pas d'études là, qui ont été de proche ou de loin d'une durée de 30 ans. Mais quelque chose de, je trouve pas inintéressant dans l'idée d'avoir un modèle prédictif à plus long terme, là, juste pour le renseignement sur le patient. Des fois, c'est ce genre d'affaire qui peut servir aussi probablement comme outil de motivation pour la modification de certaines habitudes de vie. Puis tout ça, que j'aille pas.
Ouais, puis c'est un calculateur qui a beaucoup de mérite là. Sa valeur prédictive, je regardais ça, semble très bonne dans les études, prouvée dans de bonnes études, d'une qualité méthodologique intéressante. Sa validation est super récente, comme tu le mentionnes, l'horizon temporel de 30 ans, ça peut être intéressant dans certaines discussions avec les patients. Ça peut s'utiliser à partir de l'âge de 30 ans aussi. Ça met l'accent sur des issues cliniquement significatives, là. Ici, la prédiction des infarctus, des AVC, c'est des issues qui peuvent parler aux patients. Donc, un calculateur très intéressant. Faut juste faire attention quand on interprète le résultat parce que c'est pas la même chose que le Framingham qui calcule le risque d'infarctus, le risque d'AVC, mais aussi d'insuffisance cardiaque, d'angine et de claudication intermittente, là. Donc, le Framingham intègre des issues peut-être un peu plus discutables ou moins cliniquement significatives, mettons, que l'outil qui est proposé ici par le HA. Donc, faut juste garder en tête que cet nouvel outil-là va donner un chiffre à la fin qui est quand même plus bas que si on utilise le Framingham.
Oui, ben je pense que c'est important de le dire. Tu vas nous parler de seuil dans quelques instants pour des traitements potentiellement, là. On peut pas d'aucune façon mettre une équivalence sur un Framingham puis ce calculateur-là, là, parce qu'on mesure pas la même affaire. Fait que n'extrapolez pas d'aucune façon les seuils proposés au Framingham.
Autre point intéressant, on met de l'avant quelques reprises dans le texte l'idée d'un processus de décision partagée. Hein, c'est à la mode. Faut toujours le mentionner dans les lignes directrices. Par contre, quand on regarde l'outil, l'enjeu, c'est qu'on n'a pas l'option de communiquer le bénéfice absolu d'ajouter un médicament. Donc, le calculateur nous permet de dire au patient, vous avez un risque X, Y, Z à subir un infarctus ou un AVC, mais l'outil ne nous permet pas de proposer un traitement et de montrer à l'aide de chiffres le bénéfice que le patient pourrait en tirer.
Donc, on peut pas voir l'impact d'une intervention quelconque, là.
Non.
Fait que tu sais, c'est malheureusement très typique. Il y a de la littérature là-dessus. Il y a des gens qui ont répertorié un paquet de guidelines en maladie cardiovasculaire, en prévention cardiovasculaire, puis qui ont documenté la quantité de ces guides-là qui intégraient dans leurs recommandations, dans les faits, un processus de décision partagée, puis qui proposaient des outils à utiliser dans le cadre d'un processus de décision partagée, puis c'est une quantité toute petite, 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 la très grande majorité, malheureusement, à part mettre le mot décision partagée à quelques endroits ici et là, ne mettent plus l'emphase là-dessus du tout quand vient le temps vraiment de faire des recommandations. C'est poche, là, mais c'est comme ça.
Malheureusement. Avec ce nouveau calculateur viennent aussi des nouveaux seuils de risque cardiovasculaire. On considère un risque de moins de 3% sur 10 ans comme faible, de 3 à 4,9% comme borderline ou limite, 5 à 9,9% comme intermédiaire et 10% et plus comme élevé. Je sais que tu aimes beaucoup ça, les seuils, Nico. Hein? Veux-tu nous faire un petit aparté, là? Je sais que
Ben, fait que
tu es un grand fan de tout ça, là.
je répète évidemment que ces chiffres-là ne doivent pas être interprétés comme des chiffres sur un Framingham. Ça ne mesure pas la même affaire. C'est clairement des chiffres plus petits pour des patients équivalents. C'est juste, tu sais, ces chiffres-là, en fait, il y a une rationnelle, notamment derrière l'utilisation de leurs chiffres. Puis une des choses qu'ils ont utilisées, c'est pas farfelu, là, mais en tout cas, vous me direz ce que vous en pensez. C'est estimer à partir de quel risque l'utilisation d'une statine sauve autant d'événements cardiovasculaires que cause de diabète. Fait qu'ils ont essayé de faire une balance risque-bénéfice au final. Puis là, évidemment, plus tu prends des gens avec des risques importants, plus la balance tombe en faveur de la statine, donc en faveur de la prévention des événements cardiovasculaires. Mais ils ont juste mis ça dans les inconvénients ou dans les risques, les nouveaux cas de diabète. Fait que pas le prix, pas le fait de prendre une pilule, pas les autres effets indésirables, pas rien de ça. Puis là, ben, ils ont dit, ben, regardez, par exemple, à partir de 3 % en présumant de l'efficacité X d'une statine, puis de l'augmentation Y du nombre de nouveaux cas de diabète, ben, on arrive à peu près 1 pour 1. Donc, on considère que ça devient intéressant d'utiliser une statine. Je trouve que le choix unique, comme je dis, je comprends qu'à un moment donné, plus tu mets d'affaires, plus c'est compliqué, puis ci, puis ça, mais je suis pas sûr que si tu donnes le choix entre la. Tu sais, mettons, si tu prends un patient typique, ou vous deux, puis qu'on vous demande, tu as le choix demain matin, faire un AVC ou un infarctus, ou devenir diabétique sur une prise de sang, qu'est-ce que tu choisis? J'ai l'impression que beaucoup de gens prendraient la prise de sang diabétique.
Ouais, on dirait que ça me laisse un peu dubitatif, là, parce que de un, tu sais, le risque de diabète lié aux statines, c'est, j'ai pas envie de dire que ça fait débat, là, mais ça fait quand même un peu débat, là, premièrement.
On peut dire ça.
Puis deuxièmement, c'est, tu sais, quand on met dans la balance juste deux variables, tu sais, le risque de diabète puis une efficacité cardiovasculaire présumée, puis qu'on évacue toutes les autres variables, je comprends que pour les fins des lignes directrices, on veut simplifier tout ça, mais c'est là l'idée que d'avoir un processus de décision partagée avec le patient puis de lui présenter les pour et les contre, c'est là que c'est intéressant parce que tu peux rentrer plusieurs variables dans la discussion, ce que tu peux pas faire dans une ligne directrice.
Ah oui, puis au-delà de plusieurs variables, tu peux surtout permettre à la personne qui doit prendre cette décision-là de donner le poids qu'elle souhaite aux différentes variables.
Ben, tout à
Tu
fait.
sais? On dirait, j'essaie de faire attention, là, parce que je ne pense pas que personne dans ce guide de pratique-là est arrivé là pour écrire un guide de pratique de mauvaise foi, là. Je pense qu'ils ont essayé comme ils pouvaient, j'imagine, ou comme il souhaitait, je ne sais pas c'est quoi le bon mot, là, mais de produire quelque chose dans le but d'aider quand même les patients. C'est juste que, bon, ils ont fait des choix, puis des choix avec lesquels je pense qu'on peut amener certaines questions.
Voilà, c'est un beau résumé. Sinon, on suggère pour les patients avec un risque limite de mesurer leur score calcique coronaire ou encore leur CRP à haute intensité pour mieux évaluer leur risque cardiovasculaire, là. Je pense que ça mérite une mention, là, dans les lignes directrices. Ils mettent beaucoup l'accent sur la mesure, le suivi du score calcique coronaire pour des patients à risque limite, à risque intermédiaire. L'idée, c'est de déceler de l'athérosclérose subclinique. Puis là, on dirait que je sais pas trop quoi dire. En fait, c'est la même critique qu'on adressait tantôt à la polypropothéine B, à la lipoprotéine A, là, le score calcique, la CRP à haute intensité sont associés à des événements cardiovasculaires dans les études observationnelles, mais on n'a pas de bonne science qui nous permet de dire que de les utiliser en pratique va, c'est augmenter la valeur prédictive de nos scores ou réduire les événements cardiovasculaires des patients. Donc, ils mettent beaucoup l'accent sur ces marqueurs-là, sur ces tests-là, mais voilà.
Mais tu sais, le CAC, quand même, faut lui donner. Ça existe des calculateurs dans lesquels on intègre le CAC puis qui sortent des stats potentiellement meilleures que, par exemple, le bon vieux Framingham. Par contre, l'ampleur de cet effet-là, quand on met dans la balance le CAC, là, qui est quand même une imagerie minimalement invasive, qui implique donc des ressources, des dollars, une certaine exposition en plus aux radiations. La plupart des gens s'entendent pour dire que ça n'en vaut pas nécessairement la chandelle. Il y a une étude aussi qui est sortie récemment dont on n'a pas parlé, puis on peut trouver juste la référence là, sur le site web, mais qui a testé différentes mesures de dépistage, incluant le CAC. Puis vraiment dans un cadre randomisé contrôlé là, pour essayer de voir si ça changeait le devenir des patients. Puis bon, cette étude-là a des limites puis des enjeux, mais au final, ils n'ont pas réussi à démontrer de bénéfices. Fait qu'on n'a pas de preuve que d'intégrer le CAC, un, juste pour le devenir clinique des patients, deux, pour améliorer des modèles prédictifs, ça en vaut vraiment la peine.
Puis l'AHA, dans le fond, dans leur calculateur de risque dont on parlait tantôt, ben ils mettent pas le score calcique coronaire là, parmi les variables à intégrer.
Fait que, tu sais, ça revient à ce qu'on disait tantôt, c'est juste je comprends pas, puis je me répète, mais je dis ça vraiment honnêtement, là, puis pour avoir posé la question à plein de gens qui semblent prôner l'utilisation de ces différents marqueurs-là, je pose toujours la question, mais vraiment, là, si j'ai un patient devant moi, puis j'ai fait un Framingham, parce qu'on est au Canada, fait que j'utilise pas le Prevent américain, puis j'ai un CAC qui m'apparaît, comment j'utilise la valeur de CAC pour communiquer le risque au patient? Puis si quelqu'un a une bonne réponse à cette question-là, je suis très honnêtement preneur, mais je n'ai pas trouvé encore.
Mais effectivement, moi, je trouve que ce que tu amènes, c'est très intéressant parce que, tu sais, on en voit de plus en plus, honnêtement, des scores calciques qui sont faits chez nos patients. Puis on dirait que c'est ça, je sais toujours pas quoi faire de ces résultats-là. Puis là, ce que j'entends, c'est que le HA dit, ben oui, utilisons-le, mais en même temps, dans des scores comme Prevent, ben, ça n'en tient pas plus compte. Fait que, je suis un peu comme toi, là, un peu dubitative avec qu'est-ce que je fais avec ça, là.
Mais bon, hein? C'est ça qui est ça.
On dirait que c'est notre conclusion à chaque segment de nouvel élément qu'on traite. Sinon, qu'est-ce qu'on devrait prescrire des médicaments pour baisser le cholestérol?
À 10 ans.
Vous irez lire les lignes directrices, là. Il y a des recommandations en pédiatrie. Je ne me suis pas embarqué là-dedans. On va s'en tenir aux adultes.
Non, mais ça existe-tu en suspension des statines?
Ouais, c'est ça, va falloir commencer à faire des statines en comprimé croquable aux fraises.
Ah, je suis plus capable.
Aïe, aïe. On rit là, mais c'est pas drôle.
Donc, chez les adultes, en prévention secondaire, c'est simple, on en prescrit pour tout le monde des pilules. En prévention primaire, c'est un petit peu plus compliqué. Là, on recommande d'en prescrire pour les patients avec un risque intermédiaire ou élevé. Sinon, pour les patients avec un risque limite, on recommande un traitement si le score calcique coronaire est positif. Et pour ceux pour qui le score calcique est de zéro, ben on propose de discuter d'une statine. Puis pour les patients avec un risque faible, dans la majorité des cas, on propose pas de traitement, mais quand même, dans les lignes directrices, il y a certaines indications de traiter ou de proposer des statines. Puis là, honnêtement, c'est quand même assez compliqué là, dans les lignes directrices. Il y a des algorithmes pour les patients en prévention primaire, les patients en prévention secondaire à très haut risque, les patients en prévention secondaire pas à très haut risque, les patients avec athérosclérose subclinique, avec diabète en prévention primaire, les patients avec hypercholestérolémie familiale, puis tout ça dépend aussi des valeurs de LDL et de non-HDL. C'est un vrai casse-tête.
C'est beaucoup de morceaux.
Donc, vous pouvez retenir qu'il faut proposer des traitements pharmaco à beaucoup, 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 beaucoup de monde. C'est un résumé qui est quand même assez juste.
Ben, j'imagine ça c'est inclusif.
Sinon, sur les médicaments utilisés, ben, il n'y a pas énormément de changements. On mise beaucoup sur les statines comme il se doit. On propose de moduler l'intensité selon l'indication, le risque et le bilan lipidique du patient qu'on traite. Sinon, on met beaucoup l'accent dans les lignes directrices sur les thérapies autres que les statines pour les patients, soit qui ont des intolérances aux statines ou encore en ajout aux statines pour atteindre certaines cibles de bilan lipidique lorsqu'elles ne sont pas atteintes. Puis les lignes directrices appellent, et je les cite, là, à briser l'inertie clinique qui entoure les thérapies autres que les statines, là. Donc, on met beaucoup l'accent sur les statines, mais aussi sur les autres médicaments que les statines. Donc, on parle des étimibes, autant en prévention primaire que secondaire. On parle, dans plusieurs algorithmes, de l'acide bempédoïque, le Nilendo, qui vient d'arriver sur le marché canadien. Puis, je pense pas qu'on en a parlé, hein, au Pharmascope.
Je suis pas sûr si on a déjà fait l'étude de. C'est Clear, si ma mémoire est bonne, l'étude de ce produit-là qui était sorti dans le New England il y a déjà, mon Dieu, je sais pas, le temps passe vite, là. 4, 5 ans, je me souviens pas trop. Bonne question, bonne question. Avons-nous déjà traité de cette étude au Pharmascope?
Si on en a parlé, en tous les cas, on n'en a
T'étais
pas
pas là,
reparlé.
ça
Ben,
c'est
ça,
sûr.
j'étais pas là, puis on n'en
T'étais
a pas
pas là.
reparlé.
Oui, ben c'est parce que ça n'existait pas au Canada, comme tu l'as dit, jusqu'à il n'y a pas longtemps avec là. Hein?
Ah,
C'était plus pertinent.
voilà. Ouais, puis on met beaucoup l'accent, évidemment, sur les inhibiteurs du PCSK9, puis on parle aussi un peu de Vazkepa, là, le lycosapent éthyl. Puis à travers tout ça, on parle beaucoup de cibles, Nico. Hein? Je pense que tu voulais nous parler un peu de tout ça.
Ben oui, parce qu'évidemment, l'idée des médicaments est intégrée dans l'idée des cibles, encore une fois. Fait qu'on nous parle de cibles en masse, des cibles, ma foi, assez personnalisées. Hein. On nous dit, par exemple, en prévention primaire, considérer un traitement si on a un fameux risque entre 3 et 5 % sur 10 ans, un LDL entre 1,8 puis 4,9 millimoles par litre, puis diviser une diminution d'LDL de 30 à 49 %. Fait qu'il y a l'idée de diminution en pourcentage, alors que chez des patients avec un risque plus élevé, mettons entre 5 et 10 % sur 10 ans, là, on nous parle d'une diminution, bon, de 30 à 49 %, mais pour les gens dans le plus proche du 10 que du 5, une diminution de plus de 50 %. Puis là, en plus, on a intégré tout ça dans visée en bas de 2,6 millimoles par litre. J'avoue que je n'étais pas familier avec le 2,6 millimoles par litre. Puis là, ben, si on nous parle de gens avec un risque de 10 % ou plus, là, on parle d'une diminution de plus de 50 %, mais ciblée cette fois-ci en bas d'1,8. En prévention secondaire, on nous parle d'une cible d'en bas d'1,4. Ouh! Des gens avant-gardistes ici. Mais bon, possible en bas d'1,8 chez certaines personnes moins à risque. C'est éparpillé. On va vous le dire. C'est un peu éparpillé. J'aime bien en plus dans d'autres situations, comme par exemple chez les adultes diabétiques de 40 à 75 ans. Là, on nous parle de recommander une thérapie qui baisse les LDL, peu importe les niveaux de LDL. Il y a d'autres sous-groupes comme ça pour qui là, on a décidé de pas y aller avec des cibles ou je ne sais quoi. Sinon, mais quand on regarde leur science ou leur référence en fonction des cibles, on revient beaucoup à la même vieille science, notamment à la fameuse méta-analyse de Silverman dans le JAMA publié en 2016, qui est la fameuse référence là, qui a souvent marqué les esprits, qui permet pour certains d'affirmer la fameuse phrase qu'on retrouve notamment dans les lignes directrices de la Société canadienne de cardio, où on dit que pour chaque diminution de 1 millimole par litre de LDL, on obtient une diminution du risque relatif d'événements cardiovasculaires de 23 %. Vous avez déjà entendu ça? Là, le problème qu'on a, c'est tout le temps la même référence, puis elle date de quand même 10 ans, puis cette référence-là, ben, c'est pas que c'est une mauvaise référence, c'est juste, je pense qu'il faut prendre le temps de la regarder. Fait que c'est une grosse méta-analyse avec presque 50 essais randomisés contrôlés, au-dessus de 300 000 participants. L'affaire, c'est qu'évidemment, elle est sortie en 2016, fait qu'elle inclut majoritairement ben, des gens sous statine, avec à peu près personne sous d'autres thérapies non statines comme de l'ézétimibe ou des PCSK9. Il y a plusieurs résultats contradictoires aussi qui sont sortis avant, pendant et après, et qui, me semble, viennent de façon assez claire montrer que, ben, elle se peut pas, cette phrase-là. Fait que, tu sais, ça va d'un bord comme de l'autre, là. Premièrement, j'utilise toujours le même vieil exemple, là. On a des médicaments qui ont baissé les LDL dans l'histoire, mais qui ont aussi pas aidé les gens. Fait que, par exemple, le bon vieux torcitrapib, dans l'étude Illuminate dans le New England en 2007, grosse étude randomisée contrôlée de 15 000 participants sous statine, à qui on a ajouté le torcitrapib ou un placebo. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Bien, ça a baissé les LDL de 25 %, mais ça a augmenté les événements cardiovasculaires de 25 %, puis ça a augmenté même la mortalité toute cause de 58 %. Qu'on se comprenne bien. En train de dire que c'est parce que les LDL ont baissé que les gens sont morts. Visiblement, le torcitrapib a fait quelque chose de mauvais. Puis là, il y a des gens même qui ont essayé de trouver des raisons, puis une des hypothèses soulevées, c'est parce que ça baisse un type de LDL là, ou d'une façon quelconque, plus pas la bonne. Ça, je ne le sais pas. C'est juste qu'il me semble que ça vient de nous montrer de façon assez définitive que tu peux pas prendre pour acquis que parce qu'un produit baisse des LDL sur un papier, de facto, ça aide les gens qui vont le prendre. Puis à l'inverse, on a toutes nos études qui sont sorties depuis cette méta-analyse-là sur les PCSK9. Hein? Parce qu'en 2016, là, les grosses études comme Fourier, Odyssey Outcomes, puis la petite dernière dont on a jasé il n'y a pas longtemps, Vesalius,
Oui.
ça, ben, n'étaient pas sorties. Puis on le sait, c'est des médicaments qui baissent les LDL de façon très, très, très importante. Fait que, tu sais, par exemple, dans Fourier, ben, les LDL ont baissé de 1,6 millimoles par litre en moyenne avec l'évolocumab, mais ça a mené seulement à une diminution du risque relatif de 15 %. Ça aurait dû être comme le double, voire même un peu plus si on suit là, la fameuse corrélation 1 millimole par litre égale 23 % de moins d'événements cardiovasculaires. Fait que, je ne comprends pas, on en a déjà parlé, c'est juste que les études ne sont pas construites pour montrer ça. Les études sont à peu près tout le temps faites. Ben, on utilise tel médicament contre un placebo. On n'essaie pas d'atteindre des LDL ou de mesurer je sais pas quoi, puis on regarde ce qui se passe. Puis je ne comprends pas pourquoi on semble avoir vraiment un besoin de sortir des corrélations plus précises ou plus je sais pas quoi, là, liées à des marqueurs intermédiaires de ça. Puis là, souvent, bon, je suis habitué avec le temps, les gens vont me dire, ouais, ben là, comment je sais si mes trucs fonctionnent, si je check pas la baisse de LDL? Puis je réponds tout le temps, ben quand tu donnes de l'aspirine à un patient qui a fait un infarctus, un AVC, tu mesures-tu quelque chose pour voir si ça fonctionne? Je pense pas. Pourquoi on donne de l'aspirine à ces gens-là? Ben parce qu'on a des études randomisées, contrôlées, contre placebo, qui montrent que ça diminue leur risque d'événement. Point. Puis tu sais, on a même des études qui ont été cherchées. Est-ce qu'il y a une différence en termes de réponse sur le risque cardiovasculaire en fonction de la force de réponse d'une statine sur les LDL? Fait que ça aussi, on en a déjà parlé, mais le meilleur exemple de ça, c'est l'étude HPS, vieille étude de 2002 dans l'ENSET, où on a comparé de la simvastatine, là, un placebo chez un paquet de monde. Puis ce qui est pratique avec cette étude-là, c'est qu'on a fait un run-in. On n'a toujours pas de français, hein, pour le run-in.
Je vais me mettre là-dessus, mais non.
La phase de jogging. Donc, ce qu'on a fait, c'est dans le run-in, on a donné à tout le monde la statine. Puis ça nous a permis de voir qui avait une réponse petite, moyenne ou élevée en termes de réponse sur les LDL. Puis après ça, on a pris ces gens-là, puis on les a randomisés à la simvastatine ou à un placebo. Puis on a donc été capable, à la fin de l'étude, de reséparer ces gens-là pour voir, ben, est-ce que les gens qui ont des fortes réponses au LDL ont un impact plus important en termes de réduction du risque cardiovasculaire? Puis la réponse, ben, dans cette étude-là, clairement, c'était non. L'effet est le même, peu importe la réponse, sur les LDL. Fait que, je sais pas. Puis là, ben, depuis, il y a des gens qui ont quand même continué d'essayer, de montrer qu'il faut avoir des cibles, puis cibler des affaires, ça aide. Deux exemples dont on a déjà jasé au Pharmascope. Le premier est l'étude TST en 2020 dans New England. Une étude où on a pris des gens seulement post-ICT ou AVC, puis qu'on a randomisé à une cible en bas d'1,8 millimoles par litre ou une cible entre 2,3 et 2,8 millimoles par litre. Puis au bout de 3 ans et demi, ben, on a réussi effectivement à obtenir moins d'événements cardiovasculaires chez les gens dans le groupe intensif que dans le groupe, on va appeler, je sais pas, standard, là, ou moins intensif. L'affaire, c'est que quand on regarde l'étude, ce qui devient un peu impossible à distinguer, c'est au-delà des chiffres de LDL qu'ils ont essayé d'atteindre, ben évidemment, les gens dans le groupe traitement intensif ont pris plus de pilules. On a pris plus de statines, on a pris plus de statines à intensité modérée, on a pris plus de statines à intensité élevée, on a pris plus de combinaisons statines-ezetimibe. Tous des affaires qui ont démontré effectivement des diminutions d'événements cardiovasculaires, notamment en prévention secondaire, comme c'est le cas dans l'étude TST. Fait que, si tu la cibles ou c'est juste le fait que tu as donné plus de pilules qu'on sait qui fonctionnent qui fait que tu as eu moins d'événements? Fait que c'est une étude qui, au final, nous a pas aidé beaucoup, j'ai l'impression, en pratique. Puis plus récemment, en 2023, l'étude Lodestar, dont on a déjà jasé, qui est une étude randomisée contrôlée, où on a décidé de comparer cette fois-ci l'idée du fire and forget par rapport au treat to target. Fait que ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a pris 4 400 individus avec une maladie coronarienne, puis on les a randomisés à soit une statine haute intensité, on n'en parle plus, merci, bonsoir, ou à débuter un traitement puis l'ajuster au fur et à mesure pour atteindre des LDL en bas d'1,8. Puis qu'est-ce qui est arrivé dans l'autre sphère au final? Ben rien pantoute. Il n'y a aucune différence entre les deux groupes sur les événements le cardiovasculaires d'aucune façon. Ce que ça a montré surtout, c'est que dans le groupe où on a ajusté un traitement pour atteindre des LDL en bas d'1,8, ben, on a fait beaucoup plus d'ajustements, beaucoup plus de prises de sang. En moyenne, je me souviens bien, c'était 7 prises de sang supplémentaires là, dans le groupe ajustement, pour au final aucun changement sur le devenir des 10 patients. Fait que ça semblait venir ajouter là, du poids à l'idée de les cibles. Pourquoi? Versus, on a des interventions, on connaît les risques et bénéfices de ces interventions-là parce que ça donne, comme on l'a dit au début, qu'elles ont été bien étudiées dans des grosses et solides études randomisées contrôlées. Pourquoi on n'utilise tout simplement pas ces résultats-là dans le cadre d'un processus de décision partagée? Merci, bonsoir. Eh bien non, c'est toujours pas terminé. On a maintenant une nouvelle étude qui vient de sortir encore une fois dans le New England en mars 2026, l'étude EasyPave.
Oui, donc EasyPave, une étude randomisée contrôlée qui a été faite en Corée du Sud, multicentrique, donc comme tu dis, qui a été publiée en mars là, de cette année, qui cette fois-ci a décidé d'étudier des cibles encore plus agressives, parce qu'on peut toujours aller plus bas. Donc, on a étudié deux cibles différentes de LDL en prévention secondaire en mettant un groupe en fait à 1,4, où on visait une cible de 1,4 millimoles par litre versus une cible à 1,8 millimoles par litre. Puis on regardait si le fait de viser cette cible-là de 1,4 était supérieur pour diminuer le nombre d'événements cardiovasculaires, donc de MACE. qui on a inclus dans l'étude des patients de 19 à 80 ans avec des antécédents cardiovasculaires qui étaient définis comme des antécédents de syndrome coronarien aigu, d'angine stable objective, de revascularisation artérielle là, de toutes sortes, de maladies vasculaires périphériques, d'AVC ou d'ICT. Puis évidemment, on excluait les patients qui avaient déjà un LDL en bas de 1,8 alors qu'ils n'avaient pas de statine avant d'intégrer l'étude. Donc, un peu complexe comme protocole, là, on a d'abord randomisé en un pour un dans un ou l'autre des groupes, donc de cibles dites conventionnelles à 1,8 versus intensives à 1,4. Une fois que ces groupes-là étaient randomisés, on a randomisé une deuxième fois pour déterminer si les participants allaient être traités uniquement avec une statine en monothérapie ou en traitement combiné. Dans ceux qui recevaient une statine en monothérapie, on faisait une troisième randomisation en un pour un pour déterminer est-ce qu'ils allaient recevoir de l'atorvastatine ou de la rosuvastatine. Versus dans le groupe où on avait un traitement combiné, ben là, les patients étaient traités avec rosuvastatine et ezetimibe.
Fait que là, attends, là, parce que
Ça, c'est compliqué.
c'est pas simple. On voit pas ça souvent, là, une triple randomisation, là.
C'est ça.
Fait que, au début, ils ont pris tout le monde, ils ont randomisé à la moitié, on va cibler en bas de 1,4 millimoles par litre, l'autre moitié entre 1,4 puis 1,8 millimoles par litre, au final. Là, après ça, dans ces deux groupes-là, on les a re-randomisés à on te donne seulement une statine ou on te donne une statine avec de l'ézetimibe.
Exact.
Puis, il y a quand même quelque chose, j'ai l'impression que l'idée derrière ça, c'était pour essayer de s'assurer une certaine distribution de la médication, notamment de l'ézetimibe, un peu peut-être pour espérer pouvoir pallier aux critiques de l'étude TST dont on a parlé il y a quelques minutes. Parce que...
C'est tout à fait ça, en fait. Ils voulaient s'assurer que leur distribution soit, en fait, pour enlever le biais là, des différents types de statines et qu'on ait une distribution bien
Ben, tu sais,
répartie.
fait que ça, j'y vois une certaine logique. Je pense qu'il y a quelque chose de pas inintéressant là-dedans. Puis là, re-randomiser après pour savoir si la statine est de l'atorvastatine ou de la rosuvastatine, encore une fois, j'imagine, dans le but de s'assurer une certaine variabilité de distribution. C'est juste que ça fait compliqué, là, mais.
Puis on justifie l'utilisation de la atorvastatine et de la rosuvastatine comme étant deux statines dans les plus efficaces, en
Ouais,
fait.
ben ça, je pense que je leur donne, là. Ça, je veux dire, on est en 2026 à un moment donné, là, je pense que ça,
Ouais.
c'est bien correct. Fait que compliqué comme triple randomisation, mais au final, ça me semble pas être un problème, là.
Non.
C'est bon.
Donc, c'est un petit peu ça. Au niveau de l'issue primaire, ben c'était un composé, en fait, des MACE, là, donc du nombre total de décès de cause cardiovasculaire, d'infarctus du myocarde, d'AVC sans issue fatale, de revascularisation ou du nombre d'hospitalisations pour de l'angine instable. Puis, en fait, on a suivi ces patients-là sur une durée moyenne de 3 ans. Donc, on a randomisé 3048 patients. On a 1526 patients dans le groupe avec la cible dite intensive où on visait un LDL en bas de 1,4. Puis 1522 patients dans le groupe avec une cible conventionnelle à 1,8. On avait des participants d'âge moyen de 64 ans avec 79% qui étaient des hommes. L'IMC moyen était autour de 25, puis le LDL médian autour de 2. Comme je disais tantôt, on avait des patients qui avaient déjà des médications, donc c'était pas nécessairement des patients naïfs. Donc, on avait 23 patients qui étaient déjà sous statine à haute dose, 68% des patients qui étaient sous statine à dose modérée, puis 28% des patients qui prenaient de l'ézetimibe déjà.
Fait qu'on dirait que tout ce que tu nous décris là, je veux dire, c'est attendu, c'est des gens en prévention secondaire. Alors, la seule affaire sur laquelle j'accroche, bon, IMC de moyen de 24,8, on voit qu'on n'était pas en Amérique du Nord ici, là.
Oui, évidemment.
Encore une
donc,
fois,
population entièrement asiatique.
c'est pas nécessairement un problème, mais bon, c'est peut-être le petit point où ça, la population est un petit peu différente de nous, là.
C'est quand même curieux de voir seulement, tu sais, moins de 25% des patients sous statine à haute dose en prévention secondaire, là. J'ai l'impression qu'en Amérique du Nord, on est peut-être un peu plus agressif normalement, non?
Ouais, écoute, je t'avoue que je suis zéro familier avec les guides de pratique coréens, là.
Oh là, tu me déçois, Nico, franchement, là.
Je suis désolé, je suis bien
Ouais,
désolé.
sérieux, là.
Je vais essayer de
Pour
pallier
une
à ça.
fois, on t'a piégé, là.
Grand résultat, là, à 3 ans, on observe une incidence d'événements de 6,6 % chez les patients dans le groupe intensif contre 9,7 % dans le groupe avec une cible conventionnelle, ce qui correspond à un rapport de risque de 0,67 qui est statistiquement significatif en ciblant des seuils le plus agressifs de LDL. En absolu, ça fait une diminution du risque de 3,1 %, ça nous donne un NNT à 32.
C'est énorme. On va revenir à des. Pour essayer de mettre ça en comparaison un petit peu, mais c'est vraiment un effet qui est important, là.
Ouais. Cette différence-là était surtout expliquée par une diminution du nombre d'infarctus non fatal du myocarde, où l'incidence passait de 1,7% dans le groupe conventionnel à 0,8% dans le groupe intensif, avec un rapport de risque de 0,47.
En même temps, si on regarde bon, l'ensemble des morceaux du composé, là, de l'issue primaire, oui, en absolu, bon, les infarctus sont un élément important, certainement, mais pour bien des morceaux, on semble aller dans cette direction-là. Les deux affaires, visiblement, où ça sort un peu différent, il y a les AVC ischémiques. Il y a très exactement le même nombre d'AVC ischémiques dans les deux bords. Bon, c'est pas des gros nombres d'événements, mais visiblement, ils n'ont pas réussi à démontrer quoi que ce soit là-dessus. Puis, la mortalité toute cause. La mortalité toute cause, on a un gros 2% dans le groupe intensif contre 1,9% dans le groupe conventionnel. Peut-être juste garder ça en tête pour tout de suite, on pourrait y revenir, mais la mortalité n'a pas suivi pendant tout l'ensemble de l'œuvre, là.
Sinon, dans les issues secondaires, là, on s'est intéressé à l'innocuité à 3 ans. Donc, il n'y avait pas de différence significative dans les effets indésirables qui étaient rapportés, notamment dans l'incidence du diabète de nouveau, là, comme tu disais tout à l'heure, ou
Ah,
encore
ça,
dans la
c'est choquant.
détérioration glycémique, ni dans les symptômes musculaires associés aux statines. Le seul effet, là, qui était observé, qui était statistiquement significatif, c'était que l'augmentation de la créatinine était moins fréquente dans le groupe de traitement intensif. Fait que ce serait comme en faveur, finalement, du traitement intensif.
OK. Mais là, la question, là, parce qu'on se rappelle l'étude TST. En fait, de quoi d'un peu similaire, montrer des bénéfices, puis là où on s'est ramassé un peu piégé en termes d'interprétation, c'est que, ben oui, dans le groupe intensif, il y avait moins d'événements cardiovasculaires, mais il y avait surtout des gens qui prenaient plus de traitements ayant démontré des bénéfices cardiovasculaires.
Ouais. Ben, c'est effectivement un peu la même chose qu'on observe dans cette étude-là. Quand on regarde, dans le fond, à 3 ans, le pourcentage de patients dans le groupe intensif qui prenaient des statines à haute dose était de 48,5 %. Puis dans le groupe conventionnel, on était à 32 %. Fait que, dans les faits, on a encore un traitement qu'on sait qui fonctionne, qui est plus fréquent là, dans le groupe intensif. Puis même chose pour les étimibes, on est à 66,6 % à 3 ans dans le groupe intensif versus 56,7 % dans le groupe conventionnel. Tu sais, autre chose, ben il y a aussi les inhibiteurs des PCSK9 qui ont été utilisés, mais quand même à des très petits pourcentages. Là, donc on a eu un 2,3 % des patients qui étaient sous inhibiteurs de PCSK9 dans le groupe intensif contre 0,9 % à 3 ans dans le groupe standard. Puis évidemment, ça, il justifiait là, principalement par des problèmes d'accessibilité et de remboursement d'assurance.
Mais bref, fait qu'on est pris quand même un peu avec l'espèce d'embûche en termes d'interprétation où les gens ont eu moins d'événements cardiovasculaires, mais ont pris plus de médicaments dont on connaît les bénéfices cardiovasculaires.
Exactement.
Puis tu nous as-tu dit, les LDL, à la fin de tout ça, ils se sont ramassés à combien?
Oui, dans le fond, à 3 ans, on était à 1,4 millimoles par litre là, dans le groupe intensif versus 1,7 dans le groupe standard.
Attends une minute, là. 1,4 contre 1,7, avec une différence de 0,3 millimoles par litre.
Oui, a diminué de 33 % les événements cardiovasculaires.
C'est pas beaucoup, là, 0,3 millimoles par litre, là.
Sachant
Clairement,
qu'il faudrait.
ça suit pas la corrélation mentionnée précédemment, là, qui nous est rapportée,
Le
dans
fameux
les.
1 qui diminue de 24, là, c'est
Ben
ça.
oui, parce que là, 0,3, ça aurait dû diminuer de genre 7%, mettons. Puis là, on est à 33%.
Puis on s'entend, là, une différence entre 1,4 millimoles par litre puis 1,7 millimoles par litre, c'est probablement pas cliniquement significatif, ne serait-ce que pour la marge d'erreur, de laboratoire ou.
Non, absolument. Je veux dire, il y a une variabilité là, prévue sur ces tests-là, puis tout ça. Là, c'est sûr, bon, c'est sur des gros échantillonnages, mais de façon générale, ça fait pas une grosse différence. Puis, fait que là, tu sais, il y a des gens qui semblent avoir vu cette étude-là, puis ça être convaincu que c'est donc enfin une espèce de preuve assez claire qu'il faut donc avoir des cibles de traitement. On dirait, là, puis qu'on se comprenne bien, là, je suis très conscient que j'ai un énorme conflit d'intérêts ici. J'essaie d'être le plus impartiales possibles. Je vais vous demander votre aide à vous deux qui avez a priori pas de conflit d'intérêt dans tout ça. Puis tu sais, moi je l'ai toujours dit, là, le jour où on me démontrera que cibler telle affaire, au même titre que tu sais, si, le jour où on me démontrera que mesurer des LPA, ça aide à prédire le futur de nos patients, moi, il n'y a pas d'intérêt dans rien de ça, là. Moi, j'essaie juste d'aider nos patients, là. Fait que je sais pas trop si je réussis à rester neutre, mais on dirait qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas dans l'étude. Je veux dire, on l'a mentionné, là, ça amène plein de questionnements, là. Tu sais, mettons, là. En gros, on a comparé, bon, au-delà des cibles, là, on y reviendra, mais un petit peu plus de pilules qui ont démontré des bénéfices d'un bord que de l'autre. Pas énormément, là, soyons clairs, là. On n'est pas dans une étude statine contre placebo d'aucune façon, là. On a une dizaine, selon le médicament qu'on regarde, là, une dizaine, une quinzaine de pourcentage de plus de gens qui prennent telle affaire dans un groupe que dans l'autre. Puis un bénéfice absolu et relatif important sur les événements cardiovasculaires. Mais juste pour vous remettre en contexte, là, j'ai ressorti quelques vieilles études où on pouvait se permettre de faire des études en prévention secondaire de statine contre des placebos, ce qu'on pourrait plus faire évidemment aujourd'hui, c'est pas correct. Fait que mettons, là, je vais vous donner des exemples. L'étude 4S, une étude de simvastatine contre placebo chez presque 5 000 patients là, MCAS suivis pendant 5 ans, sont partis avec des LDL à 4,9. Ils ont fini avec une diminution de 35 % de leur LDL, donc une diminution d'1,7 millimoles par litre. Ça les a amenés à 3 points d'épinote. Fait qu'on s'entend, là, une diminution absolue et relative significativement plus importante que dans l'étude des IPAVE. Puis, on a obtenu ici une diminution des événements cardiovasculaires de 34 % avec, bon, un NNT là, plus important, là, un NNT à 12, mais aussi une diminution de la mortalité toute cause de 30 %. Et je rappelle, dans les IPAVE, on a la diminution des événements cardiovasculaires, mais on n'a aucune même tendance en termes d'effet sur la mortalité toute cause. L'étude CARE, on a comparé de la pravastatine 40 000 g à un placebo chez encore un peu plus de 4 000 participants avec un infarctus pendant 5 ans. Quand on regarde le composé de mortalité cardiovasculaire puis d'infarctus du myocarde, une diminution relative de 24 %, alors qu'on avait pourtant une diminution des LDL de 1,1 millimole par litre. On est parti à 3,6 puis on s'est rendu à 2,5. Fait encore quelque chose qui n'a pas l'air de fitter. Puis il y en a d'autres exemples comme ça, là. Fait que tu sais, c'est comme si, bon, l'idée de 1 millimole par litre égale tel bénéfice, ça semble pas tenir la route ici. Fait que ça voudrait dire quoi? Qu'il y a une espèce de sweet spot en bon français où il y a vraiment quelque chose qui se passe quand tu joues dans les LDL entre 1,5 puis 2, là, vous comprenez ce que je veux dire, là, tu sais, comme si d'amener les patients au lieu d'1,8 à 1,4, il y aurait vraiment un gros effet en termes de devenir cardiovasculaire. En même temps, ça aussi, on a des exemples qui nous montrent que non, nos études de PCSK9, là, ils ont fait encore bien plus que ça en termes de LDL, évidemment. Tu sais, si on prend l'exemple de Fourier, là, qui était la grosse étude avec l'évolocumab, là, énorme étude de 27 000 participants MCAS sous statine, qu'on a randomisé à de l'évolocumab ou un placebo pendant un peu plus de 2 ans. Les LDL sont passés dans le groupe évolocumab en moyenne de 2,4 à 0,8. Une énorme diminution de LDL. Puis qu'est-ce que ça a donné? Une diminution des événements cardiovasculaires relative de 15 %. Je veux dire, ça fait pas pantoute. Puis similaire là, avec les autres études de PCSK9, comme Odyssey Outcome avec l'évolocumab, ou plus récemment, Oli, quand on a parlé de Vesalius avec l'évolocumab, là, on était passé de LDL de quasiment 3 à 1,16. Puis on a une diminution relative des événements cardiovasculaires de 25 %. Fait que tu sais,
Quelque chose qui marche pas.
puis tu sais, qu'on se comprenne bien, on n'est pas en train de dire d'aucune façon là, que les résultats de l'étude sont faux ou pas bons, ou je sais pas quoi, là. Mais il y a quand même quelque chose qui fit pas, là.
Non, mais le point qui est soulevé, c'est que l'ampleur de l'effet qui est constaté en termes de réduction du risque cardiovasculaire versus l'ampleur de l'effet sur les LDL, ben, il y a une discordance avec le reste de la science disponible. Clairement, là.
Visiblement, visiblement. Puis tiens, on revient au point de départ là, de tout ça. Là. Je ne sais pas pourquoi semble avoir besoin de se trouver des cibles. Je sais pas pourquoi ça nous prend ça. Je veux dire, il y a une tonne de traitements. On parlait de l'aspirine, là. Il y a plein d'autres exemples de traitements qu'on utilise couramment pour lesquels on n'a pas de cible, puis on semble être très à l'aise avec l'idée. Ici, je sais pas trop. Je sais pas trop. Puis tu sais, au final, on dirait que EasyPave, pour moi, nous rappelle surtout quelque chose que je trouve vraiment weird avec l'idée des cibles, by the way. Parce que souvent, les gens ont l'air d'utiliser l'idée des cibles pour une espèce d'argument pour rajouter ou augmenter la médication. Mais il y a l'inverse aussi, hein? Parce que dans les faits, là, si on accepte l'idée d'une cible, fait que mettons, on se dit, là, mettez le chiffre que vous voulez, là, mettons une cible en prévention secondaire en bas d'un point 8 dans un guide de pratique, là, ce qui est véhiculé, là, à différents endroits. Bien, ça veut dire que ton patient qui sort à 1,7 avec, je sais-tu, moi, une statine faible intensité, par exemple, bien, selon ces recommandations-là, tu devrais lui dire, ah ben toi, tout est beau, bonne journée, on fait rien. Ce patient-là, si on utilise les cibles, c'est comme s'il n'y avait pas le droit de bénéficier des autres traitements qui ont démontré pourtant des bénéfices dans des études randomisées contrôlées. Puis je comprends là, que dans ces études-là, il y a un seuil, hein, c'est pour ça que dans les guides de pratique canadiens de la CCS en 2021, on a enlevé le mot cible, puis on a mis le mot seuil. Dans ces études-là, il y a un seuil, comme c'était le cas ici, là, tu nous l'as dit à main. Il y a des LDL minimaux. Fait que, tu sais, l'idée de copier-coller ces critères d'inclusion-là pour dire, ben moi, je me réserve simplement les thérapies aux gens qui fitent exactement les critères d'inclusion, je l'entends, là, je le comprends, mais en même temps, on l'a dit tantôt, il y a une variabilité sur les prises de sang, là. Fait que dans les faits, ton patient avec un LDL à 1,7 puis ton patient avec un LDL à 1,9, c'est très exactement le même patient. Je pense pas que ce soit normal qu'il y en ait un à qui tu dises, ouh, toi, on va devoir augmenter ou ajuster ta médication. Puis l'autre, tu lui dis, ah, toi, tu t'es bon, on fait rien. Je veux dire, ça me semble farfelu. Là. Fait qu'on dirait qu'EasyPave me montre juste, me semble qu'on savait déjà que, ben, même pour des gens qui ont des LDL plus bas, ben, on pourrait quand même leur proposer d'ajuster leur thérapie ou d'ajouter des thérapies s'ils considèrent que le bénéfice démontré dans des études randomisées contrôlées de ces thérapies-là les intéresse. Là. Mais je pense pas qu'on avait besoin de l'étude EasyPave, là,
Non.
pour savoir ça, mais on dirait que c'est pas mal la seule conclusion que je suis capable de tirer de cette étude-là. Vous autres?
Ben moi j'en conclus que faudrait arrêter de faire des études de cible de LDL. C'est pas mal ça ma conclusion.
J'allais dire exactement la même chose.
Je sais pas, je sais pas. Pour vrai, le plus honnêtement du monde, là, si vous voyez quelque chose qui ne marche pas dans ce qu'on dit, que vous avez trouvé le secret là, dans tout ça, écrivez-nous, Seigneur, ça me fera plaisir, là, sans blague. Là, on dirait que je suis naïf, mais je continue de penser. Il me semble que la dyslipidémie, ça ne devrait pas être particulièrement compliqué. Tu calcules le risque cardiovasculaire d'un patient, bon, en utilisant un calculateur adapté à ton patient, c'est bien beau. Tu y montres ce qu'il peut aller chercher en termes de bénéfices et d'inconvénients avec les différentes thérapies disponibles. Puis, ben, tu demandes qu'est-ce qu'il en pense. Puis, tu sais, on chemine, là, parce que, hein, l'INES, on se rappelle, il y a peut-être quoi, le temps passe vite, j'imagine, là, quelque part l'année passée, je me souviens plus exactement leur formulation, là, ils n'ont pas dit d'arrêter de faire des LDL de contrôle, là, mais ils ont comme ouvert une porte là, en prévention primaire. Je sais pas pourquoi pas en prévention secondaire, mais en prévention primaire, ils ont rajouté l'idée que c'est peut-être pas nécessaire là, de faire des bilans de contrôle puis d'essayer de cibler quelque chose. Mais bon, visiblement, on n'a pas fini, là. On n'a pas fini de.
Je pense qu'on va en parler encore dans 10 ans. Prépare-toi, Nico.
Vingt années. Vingt années. Aïe, aïe, aïe. Bon, bien sûr, ce petit message habituel, c'est des questions, des plaintes, des critiques, des commentaires. On vous invite à écrire à Oli. Sinon, ben nous autres, on s'en parle bientôt.
Ciao.
Salut.
Ciao.
L'information contenue dans cette balado-diffusion est à titre indicatif seulement et ne remplace en rien l'avis ou le jugement d'un professionnel.